Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Eric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de Rai l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Arauz, responsables du web, et sous la direction de Adrien Colol, nous vous offrons cette semaine un programme centré une fois de plus sur le Brésil, à partir de la tentative de coup d'État des supporters de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, le 8 janvier. La réaction intérieure et internationale de condamnation a permis de mater rapidement le soulèvement fasciste. Seul le temps dira si le président Lula da Silva en sortira renforcé dans sa défense de la démocratie et de la paix. Voici différents rapports de France 24.
Une véritable marée humaine a réussi à passer le cordon de sécurité après des affrontements avec les forces de l'ordre et à entrer, comme nous avons pu le voir, d'abord au Congrès, puis au palais présidentiel et dans la Cour suprême, où d'importants dégâts ont eu lieu, notamment une salle plénière où ont lieu les sessions de la Cour. Du mobilier, des vitres ont été brisées, des œuvres d'art de centaines d'années. Lula a décrété une intervention fédérale jusqu'à ce 31 janvier. Les forces de trois États différents, au moins, vont aider à la sécurité de Brasilia et la police fédérale quand elle tente d'identifier la centralisation de la planification de ces actes qui sont considérés comme terroristes par une bonne partie des médias brésiliens mais aussi du président lui-même.
La démocratie brésilienne attaquée en son cœur. En début d'après-midi, les partisans de Jair Bolsonaro forcent les cordons de sécurité. Ils parviennent à accéder à la place des trois pouvoirs et investir le toit du Congrès. Les supporters de l'ancien président d'extrême droite tabassent un policier chargé de garder les lieux. Quelques minutes plus tard, les bolsonaristes cassent des vitres. Les lieux du pouvoir brésilien sont envahis. L'hémicycle du Sénat. La Cour suprême. Et même le palais présidentiel. Une protestation violente contre l'arrivée au pouvoir il y a une semaine de Lula. En déplacement à Sao Paulo, le président de gauche prend la parole et menace les émeutiers.
Il n'existe pas de précédent en ce qui concerne les actes de ces personnes. Et pour cela, ces personnes doivent être punies. Nous allons découvrir ceux qui financent ces vandales qui sont allés à Brasilia. Ils seront punis avec toute la force de la loi pour ce geste irresponsable, pour ce geste antidémocratique et ce geste de vandalisme fasciste.
Lula a décrété l'intervention fédérale jusqu'au 31 janvier. L'armée est à présent en charge de la sécurité du district fédéral de Brasilia. Sur place, les forces de sécurité reprennent un à un les bâtiments modernistes construits par Oscar Niemeyer. L'invasion des lieux du pouvoir brésilien a duré plus de 3 heures. Selon plusieurs médias, des centaines de bolsonaristes ont été arrêtés par la police lors de cette journée d'émeute.
Pour commenter ces événements, Frédérico Lira, chercheur à l'Université de Lille et membre de l'association Autre Brésil.
C'était très prévisible. Les chercheurs qui suivent de près la situation, qui sont impliqués, des gens de plus attentifs, ils savent que quelque chose de ce type allait se passer depuis au moins 2 ans. On parle de ça, on parle de pétition, 2 ans exactement, parce que c'est le modèle nord-américain qui est toujours le grand modèle de démocratie. Donc comme ils ont fait ça, on essaie de copier et beaucoup d'autres probablement vont copier par la suite. Donc à la fin, c'est surprise parce qu'on ne s'entendait pas aussitôt, à peine une semaine de la montée au pouvoir de Lula, mais c'est prévisible parce que tout le monde savait. Moi, j'étais un parmi ceux qui pensaient que appeler fasciste, c'était peut-être compliqué, peut-être daté, mais je pense que Lula, il a tout à fait raison. Maintenant, on n'a plus de doute. Maintenant, il faut utiliser le terme. Le terme, il est revenu. Le terme, il n'a jamais sorti de scène, en fait. Le fascisme, pour plusieurs chercheurs, moi, je suis philosophe, donc j'étudie des philosophes allemands, par exemple Adorno. Et pour lui, il a développé une théorie aux années 30-40, où comme le fascisme, comme une pulsion de mort, disons, du capitalisme. Donc une conséquence, quelque chose qui est là tout le temps latente et qui a des implications dans cette société marchande de la concurrence. Et là, ce qui vient de se passer, c'est montrer la face totale. Disons, qui était sceptique, et moi, entre eux, d'utiliser ce terme extrême, là, on ne peut plus avoir aucun doute. Et je pense que là, il a très raison, ou il a beaucoup raison aussi de ne pas employer un autre terme qui est très dangereux, qui est très à la mode aussi en France, très utilisé par l'État, par le gouvernement français, par le gouvernement américain, et qui est le terme utilisé par les médias brésiliens, qui est un terme équivoque. Et là, pour le coup, ça, c'est un terme équivoque, c'est le terme de terroriste. Il ne s'agit pas de terroristes, il s'agit des fascistes, des putschistes, qui essaient de faire, d'essayer de amener la société vers une direction outre-autoritaire, de tourner le pays dans une direction outre-autoritaire. Et heureusement que Lula ne s'est pas prononcé avec ce mot ni terroriste, et il a employé le bon mot. Le bon mot, c'est vraiment un nouveau type de fascisme. Je suis d'accord que ce n'est pas le même des années 30, ce n'est pas les mêmes des années 40, mais il est là, et on ne peut plus nier, je pense. Ça, c'est très important. Par contre, l'autre chose, bon, il a décidé pour une intervention fédérale à l'état du district fédéral. C'est quelque chose qui avait été fait, par exemple, par Michel Temer, qui avant d'une intervention directe à l'état de Rio, un peu plus ou moins similaire, sauf qu'il n'a pas, maintenant, c'est pas sur les ordres de l'armée. Donc, c'est quand même une bonne chose. Parce que l'armée, on ne sait pas si elle est directement impliquée ou pas, c'est très ambigu. Ils ont certains généraux almirants, des gros postes de l'armée, des chefs. Ils n'ont pas vraiment reconnu Lula comme nouveau président, donc il a un conflit interne. Et du coup, mais c'est quelque chose de provisoire. Bon, c'est déjà dans le nom de la mesure, mais aussi dans ce qui peut vraiment amener, parce que ça s'est passé à le district fédéral, mais le Brésil est très grand, on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer demain, s'il va y avoir des manifestations. Donc c'est quelque chose d'énorme qu'il faut suivre de près, je pense. Mais là, on a passé à un autre niveau, vous voyez. Donc il y a une invasion, une attaque directe aux trois pouvoirs simultanés, donc quelque chose d'une ordre inédite au Brésil.
Plusieurs réactions aussi côté français. Plusieurs élus ont dénoncé des attaques de l'extrême droite. On a eu les réactions de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise qui accuse l'extrême droite de tenter un putsch. Olivier Faure pour le PS qui parle de refus de la démocratie. Gauthier, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est la démocratie qui est attaquée là encore aujourd'hui?
Ah, complètement. Complètement. Mais elle a été attaquée tous les jours pendant le mandat de Bolsonaro. Si vous voulez, il y a quelque chose quand même de très très surprenant dans le fait d'abord qu'un homme comme lui ait été élu, qui ensuite il ait pu se maintenir au pouvoir malgré toutes les déclarations justement et les actes qu'il a produits dans la société brésilienne, y compris des diatribes racistes et qui étaient de nature à engager et à impliquer un certain nombre de citoyens qui se lancent dans ce genre de choses. Comment a-t-il pu aussi, souvenez-vous, avant l'élection présidentielle, on dit Lula va l'emporter très largement. Or, en fait, Lula l'a emporté de très peu. C'est-à-dire que Bolsonaro a réussi à maintenir une assise, un soutien, parmi des citoyens qui avaient pourtant vécu 4 ans sous son emprise. Alors, bien sûr, on dira, il y a le complexe agro-industriel qui est très fort et derrière lui, parce que Lula, finalement, favorise une sorte de productivisme écervelé et décérébré. Et donc, il y a ce complexe-là. Mais il y a d'autres gens qui n'appartiennent pas ce complexe-là, qui ont continué à lui faire confiance, alors que cet homme est non seulement un homme, on va dire une personnalité d'ordre assez phallo, c'est un passe-muraille normalement, Bolsonaro, sauf qu'il a un sorte de bagou tiré des bas-fonds, on peut dire, et presque de la pègre dans sa manière d'insulter les gens, que ça donne parfois aux gens l'impression qu'il transgresse quelque chose et que donc ça les met dans une situation d'excitation. Mais c'est aussi une énorme régression, Bolsonaro, par rapport à ce qu'est la société brésilienne et ce dont elle a besoin. Et donc, il y a toujours cette interrogation sur ce qu'il a pu, comment il a pu faire. Et puis surtout, je vous ai dit, les armes à feu, pendant 4 ans, ça a été quelque chose qui est allé en crescendo dans la libéralisation de l'accès aux armes à feu. Et il y a d'autres dossiers, évidemment, où il a été malheureusement très actif. Donc oui, c'est une attaque mais magistrale contre la démocratie brésilienne, avec, et il faut bien voir, à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas ce que ça va devenir. Bien sûr, on le disait, et notre invité le disait, avec la grande question, le grand point d'interrogation, c'est l'implication ou non de l'armée. Si oui, à quel degré?
On s'interroge aujourd'hui, est-ce que l'armée a ou non un rôle dans tout ça? Gauthier Rabinski.
Sur la discrétion de l'armée depuis l'élection de Lula, au fond, dans un pays démocratique, on ne peut que s'en féliciter. C'est-à-dire que l'armée, comme on dit en France, c'est la grande muette. C'est-à-dire c'est celle qui n'a pas à se prononcer sur des objectifs politiques. Si elle le fait, c'est qu'on est dans une situation de fait, de régime militaire ou de putsch pour y parvenir. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Quant aux connivences, quant aux liaisons dangereuses entre l'armée et Bolsonaro, elles sont très claires. Lui-même, Bolsonaro, est un ancien capitaine assez fade, assez falo, et d'ailleurs qui a eu des mailles à partir avec la hiérarchie. C'était pas quelqu'un de très obéissant. Mais il a d'emblée, durant sa campagne électorale en 2018, fait référence à la dictature militaire, donc qui a régné au Brésil entre 1964 et 1985, et en regrettant ouvertement la torture, en faisant l'éloge du général Ustra, qui était un des chefs de la torture de la dictature brésilienne. Et donc, il a séduit, on ne peut pas dire qu'il ait caché ses opinions et ses accointances au public brésilien. Et donc, une partie y est allée, a suivi Bolsonaro pour cette raison. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais là, c'est pas spécifique au Brésil, c'est de voir combien il y a une forme d'amnésie politique. Vous avez clairement quantité de manifestants qui réclame à corps et à cri une intervention militaire, comme si le Brésil n'avait jamais connu la dictature militaire. C'est-à-dire que vous voyez cette espèce d'amnésie, d'oubli de ce qu'a été le régime militaire pour des personnes qui ont peut-être entre 30 et 40 ans aujourd'hui. Bon, évidemment qu'elles n'ont pas connu cette époque-là, mais enfin, ça s'apprend dans les livres d'histoire. Et là, on passe totalement au travers, c'est-à-dire qu'on réclame un régime qui soit une dictature militaire, comme si le Brésil n'avait jamais été meurtri au plus haut point par ce passage des militaires au pouvoir.
On va retrouver tout de suite Perrine Juan, qui est notre correspondante au Brésil. Perrine, en direct de Rio, bonjour. On est le jour d'après, on tente évidemment de comprendre ce qui s'est passé hier.
Lula da Silva est arrivé à Brasilia hier soir, ce dimanche, où il a pu constater l'ampleur des dégâts d'abord au palais présidentiel, puis à la Cour suprême, même s'il lui avait été déconseillé de s'y rendre dans un premier temps, afin que les forces de sécurité puissent rechercher la présence d'éventuels explosifs et enquêter sur les lieux. En tout cas, à Brasilia, le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a quant à lui ordonné la démission des fonctions du gouverneur de Brasilia, afin de pouvoir éclairer son éventuelle implication dans ces faits. Il a également interdit l'entrée de tout véhicule transportant des manifestants à Brasilia, où de nombreuses rues ont également été scellées. Et en ce moment même, le campement des bolsonaristes, qui campent depuis 2 mois devant le quartier général de l'armée à Brasilia, est en train d'être démantelé. Ce campement des partisans les plus radicaux de Jair Bolsonaro, qui refusent encore de croire à sa défaite et qui espèrent depuis des mois une intervention de l'armée qui ne sera jamais arrivé.
On veut évidemment savoir qui est derrière tout cela.
Lula s'est exprimé aussi là-dessus hier soir. Il a réclamé une enquête afin de savoir qui serait à l'origine du financement de ce mouvement. Ce mouvement, comme je le disais, des partisans les plus radicaux de Jair Bolsonaro, qui refusent toujours de croire à sa défaite. Et puis nous pouvons le voir, un mouvement qui semble bien organisé. Nous avons pu voir tout le week-end à Brasilia une centaine de bus arriver à Brasilia, un mouvement qui semble donc bien organisé. Lula a demandé la poursuite, la sanction de ses instigateurs. Il faudra évidemment déterminer aussi la possible implication de certains membres des forces de l'ordre qui semblaient avoir des affinités avec les putschistes hier. En tout cas, du côté de Jair Bolsonaro, le président qui s'était envolé vers la Floride 48 heures avant la fin de son mandat, exprimé lui aussi hier sur Twitter et a démenti en tout cas toute implication, mais a, je cite, parlé de manifestations qui sont contraires à la règle des démonstrations pacifiques.
L'assaut des bâtiments gouvernementaux à Brasilia par des soutiens de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a choqué de nombreuses chancelleries. La France, qui partage une frontière avec le Brésil, critique une attaque contre la démocratie.
La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France.
Même son de cloche du côté de l'Union européenne, la légitimité de Lula da Silva, investi président le 1er janvier dernier, est incontestable pour le président du Conseil européen.
Ma condamnation absolue de l'assaut contre les institutions démocratiques du Brésil. Soutien total au président Lula da Silva, élu démocratiquement par des millions de Brésiliens lors d'élections équitables.
Aux États-Unis, Joe Biden se dit impatient de travailler avec le nouveau et seul président légitime à ses yeux, Lula da Silva.
Je condamne l'assaut contre la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir au Brésil. Les institutions démocratiques brésiliennes ont tout notre soutien et la volonté du peuple brésilien doit être respectée. J'ai hâte de travailler avec le président Lula da Silva.
Dans la région, les présidents de gauche, chiliens et mexicains, ont également fait part de leur condamnation. Avec d'autres chefs d'État d'Amérique latine, ils envisagent de demander une réunion du Conseil de l'Organisation des États américains pour évoquer la situation de la démocratie au Brésil.
Natalia Docco est une chanteuse argentine née le 6 septembre 1982 à Buenos Aires. Elle commence à se faire connaître sur Internet en interprétant de nombreuses reprises. Elle quitte son pays pour le Mexique, puis en 2011, elle fait un voyage en Europe et décide de s'installer à Paris. Outre sa musique, partageons un reportage de Cédric sur acoustique.
Alors je respire, et même si la tête me vuelve a atrapar. Alors je respire, respire que après la pluie, à nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil.
Bienvenue en acoustique avec Cédric. On reçoit aujourd'hui une artiste qui nous vient d'Argentine, Natalia Docco. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, très bien.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton style musical ? Parce que j'ai vu que tu avais vécu en Argentine, au Mexique, que tu avais pas mal voyagé. Est-ce que tu peux nous parler de ton style musical ?
Oui. C'est toujours pas très simple de définir mon style musical. Parce que, en fait, je mélange beaucoup de choses qui m'intéressent. Dans ces cas-là, de ce deuxième album, je suis très intéressée pour les folklores de Latinoamérica, et dont j'ai mélangé beaucoup, peut-être un son un peu moderne pour des éléments bien électriques, non, comme des claviers ou des sons faits avec des machines, mais avec beaucoup de rythmes et des instruments bien autochtones de Latinoamérica, Sud-Amérique. Donc je pense que c'est un mélange de toutes les cultures avec lesquelles j'ai vécu.
Tu as beaucoup voyagé donc, mais qu'est-ce qui t'a amené en France en fait ?
L'amour, d'abord.
D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes français qui t'inspirent ?
Oui, il y en a. Oh, maintenant, je pense beaucoup au folklore. Maintenant, ma tête est vraiment très autochtone. Mais oui, il y a des artistes qui m'inspirent. J'aime beaucoup Charles Aznavour, Henry Salvador. Bueno, y a plein. Dedo, par exemple, j'aime bien aussi.
Alors, je voulais savoir, en fait, vu que tu as beaucoup voyagé, est-ce que oui. Le public est différent? Est-ce que quand tu montes sur scène, le public réagit différemment aux chansons, que tu sois en Amérique latine ou que tu sois en France? Est-ce que le public est différent ou pas?
Oui, il y a beaucoup de différences.
D'accord.
Si. Et le public argentin, par exemple, c'est très chaud. Bon, en Argentine, on adore dire que tous les artistes internationaux, ils préfèrent enregistrer ses DVD en Argentine parce que le public il est à fond. Et tout le monde monte sur les épaules. Et ils s'enlèvent les t-shirts. C'est incroyable.
D'accord.
C'est comme aller à l'estade. Mais j'aime beaucoup de France, du public français, la bienveillance. Je pense que c'est quelque chose que... Latinoamérique, c'est chaleureux, bien sûr, et c'est une des caractéristiques que nous, on a très remarquablement. Mais France est bienveillante. Je trouve que c'est un public qui est toujours avec l'envie de découvrir, de respecter beaucoup l'artiste. Ils peuvent ne pas aimer, peut-être. Ça arrive des fois qu'ils ne s'aiment pas. Moi, j'ai fait pour mon premier album plusieurs premières parties. Et peut-être j'avais pas beaucoup à donner parce que c'était pas mon public à moi, mais ils sont toujours bien respectueux, en train de regarder, de respecter, même si ils sont pas forcément intéressés. Je trouve que c'est une belle qualité.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album que j'ai comme ça entre les mains? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui. A ver, ¿qué te puedo decir? Cet album, c'est mon 12e album, mais pour moi, je le sens comme si c'est le premier. Parce que pour le premier, j'ai fait beaucoup de concessions pour pouvoir les faire. Et celui, je l'ai fait en indépendant. Et c'est très important pour moi de le dire parce que ça m'a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup de force, de persévérance. Et j'ai dû travailler plusieurs qualités sur ma personnalité pour arriver finalement à l'avoir un vrai. Et c'est complètement à moi. C'est pour moi, c'est pour ça que c'est les premières, parce que toutes les chansons sont à moi. Et toutes la pochette, les idées, les arrangements, et tout, complètement tout. C'est vraiment moi qui a pu réussir.
C'est vraiment ton album.
Exactement, ça, c'est voilà. Mon album.
Parce qu'en général, on dit ça, mais là, c'est vraiment ton album.
Si, c'est d'accord. Vraiment mon album.
Alors, Natalia Doko va être en live maintenant en acoustique avec Cédric, avec ses musiciens. Natalia Doko.
Linda me recuerda que hay tanta florcita pa' fumar, ay, ay.
Se vino la cumbia.
Mi envidia no es nada y sé, la lleva el viento. La pongo en el agua y de pronto no existe, se disuelve con el viento. Que mi pena no es nada y sé, la lleva el viento. Se la lleva el agua, no existe, no existe, se deshace con el tiempo. Mi vida linda me recuerda que hay tanta cosita. Ay, ay. Cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo en la mente entristecida. Ay, vida linda, cuando te recuerdo, mi alma florece de encanto. Y un rayo de luna transforma mi canto. Le canto a la luna, mi gualicho santo. Lejos la espina, fuera el quebranto. Cuando de llanto me harto voy a plantarlo al campo. La tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco. que cuando se me va el encanto vuelvo a quejarme tanto. La tierra me abraza, silencia mi voz y después ya me levanto. Mi vida linda me recuerda que hay tanta florcita pa' fumar. Ay, ay, cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo en la mente entristecida. Ay, vida linda, cuando te recuerdo mi alma florece de encanto. Y un rayo de luna transforma mi canto, le canto a la luna a mi igualillo santo. Lejos la espina, fuera el quebranto. No tiene corazón el bicho en mi cabeza, no tiene compasión y no quiere salir el no. Tiene corazón, apenas amanezca, no tiene compasión, lo vamos y lo vamos y lo vamos y no tiene corazón, el bicho en mi cabeza, ay no tiene compasión y no se quiere ir, él no tiene corazón, apenas amanezca, no tiene compasión, lo vamos a hacer salir. Hey. Cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo en la mente entristecida. Ay, vida linda, cuando te recuerdo, mi alma florece de encanto. Y un rayo de luna transforma mi canto, le canto a la luna, mi igualillo santo.